Par téléphone, on est avec Mathieu Develaminck. Salut.
Salut.
Mathieu Develaminck, Arrajois. L'année dernière, tu étais au lycée Gambetta à Arras. Aujourd'hui, tu habites Paris et tu es président de l'UNL, principal syndicat lycéen, l'Union nationale lycéenne. Alors, comment on devient président d'un syndicat national ?
Comment on devient président ? Moi, je pense que c'est une question d'engagement. À vrai dire, le turnover est très rapide dans les organisations lycéennes. Donc, je pense qu'on acquiert vite plus ou moins de responsabilités à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Après, je pense qu'il n'y a pas de formule magique et que c'est surtout les aléas de la vie qui font qu'on arrive à avoir plus ou moins des responsabilités dans une organisation lycéenne.
Tu as parlé d'implication. Toi, tu es président à plein temps. Comment ça se passe ? Tu n'es plus lycéen ?
Moi, je suis du coup à plein temps sur l'UNL pendant un an. Étant donné que il faut être sur Paris, c'est un peu obligé. Et concrètement, ça prend assez, c'est quand même beaucoup de temps. Donc oui, je pense que il faut être à plein temps. Et c'est aussi ça qui est un peu contraignant, c'est que quand on est président d'une organisation lycéenne, il faut se mettre à plein temps. Or, quand on est lycéen, on a le bac à passer, on a des cours auxquels il faut aller. Donc c'est un peu compliqué d'allier les deux, mais on s'en sort.
Avec toi, on parle de plusieurs choses, la campagne pour le droit de vote à 16 ans, mais avant ça, quelque chose que le syndicat peut-être n'avait pas prévu à son agenda syndical, c'est le thème du droit des lycéennes à porter la tenue qu'elles souhaitent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du point de vue syndical sur cette question ?
Pour être franc, ça nous a un peu pris de court. Ça nous étonne pas parce que c'est une question qui revient tous les ans, mais ça nous a un peu pris de court que d'un coup il y ait des lycéennes qui décident de se mobiliser sur cette question-là. On est totalement pour le droit des lycéens et des lycéennes à s'habiller comme ils le veulent à l'école, et on regrette qu'il n'y ait pas plus de dialogue avec les administrations sur cette question-là. Nous, on pense que si cette situation-là, elle en est arrivée au point où on en est, c'est parce que le dialogue entre les élèves et l'administration et le ministère de l'Éducation est rompu. On s'est mobilisé dans les marches pour le climat, on s'est mobilisé dans les marches antiracistes, on s'est mobilisé contre les réformes de Jean-Michel Blanquer, on n'a jamais été écouté, et là en fait c'est encore la cristallisation de ce phénomène.
Alors justement, puisque tu as parlé du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer a réagi sur cette question. En gros, son discours sur la tenue des lycéens et des lycéennes, c'est qu'elle doit être normale. Comment tu vois cette référence à la normalité ?
Déjà, moi j'aimerais bien demander aux auditeurs c'est quoi la normalité, parce que concrètement moi je serais pas capable de le définir. Et à mon avis, si on veut essayer de poser des contours à la normalité, il y a une chose qui est sûre, c'est que la normalité d'il y a 40 ans, de l'époque de Jean-Michel Blanquer, c'est pas la normalité d'aujourd'hui. Et à mon avis, on sent vraiment un choc générationnel dans ce mouvement, parce que les normes d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes normes qu'il y a 40 ans, et c'est normal, ce qu'on appelle l'évolution.
Toute la question là du débat sur les tenues correctes ou pas correctes, c'est parti de Boulogne. Comment ça s'est passé finalement, et comment ça se passe aujourd'hui là-bas à Boulogne au niveau des lycéennes et des lycéens mobilisés, et comment ça a fait tache d'huile ensuite ?
Nous, du coup, à Boulogne, il y a des lycéens qui s'étaient mobilisés notamment pour la question des tenues vestimentaires. Nous, on n'a pas d'écho. Moi, je suis pas dans ce côté-là, clairement, donc j'aurais du mal à dire concrètement ce qui s'y passe. Mais cependant, je pense qu'il y a une réelle volonté de continuer le mouvement. Et en tout cas, s'il y a des cas de répression administrative, nous, à l'UNL et avec le collectif féministe Nous Toutes, on sera présents pour accompagner les élèves, faire valoir leurs droits.
Et est-ce qu'au niveau national, est-ce que finalement il y a eu des répercussions ? Est-ce qu'il y a d'autres lycéens et lycéennes qui se sont emparés de cette question pour manifester, se mobiliser ou organiser des discussions ?
Ah oui, totalement. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a une ampleur nationale. Et avec le formulaire qu'on a mis en place avec Nous Toutes pour recenser les cas de répression administrative, on a quand même 250 cas individuels ou collectifs d'événements discriminants, que ce soit des conseils de discipline à cause de notre tenue vestimentaire ou un refus pur et simple d'accès au lycée. When I first met you, baby,
baby, you were just... Suite de notre entretien avec Mathieu Develaminck, Arajois et président de l'UNL, Union Nationale Lycéenne. Avec lui, on évoque la campagne menée par ce syndicat pour le droit de vote à 16 ans.
On a un groupe parlementaire qui a déposé une pétition pour le droit à 16 ans. Nous, à l'UNL, c'est une revendication qui est historique, qu'on soutient depuis 10 ans, et on est content que ce débat puisse avoir enfin lieu. Même si on ne gagne pas le droit de vote à 16 ans cette année, on est content que cette question, elle ne soit plus taboue. Parce que nous, il y a 10 ans, quand on en parlait à l'UNL du droit de vote à 16 ans, en fait, on se moquait de nous. On disait, mais pourquoi les gamins, ils veulent voter, à quoi ça sert? On passait vraiment pour des uluberlus. Et là, on a enfin des débats publics sérieux sur la question de donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans. Et rien que pour ça, pour nous, c'est une victoire.
On peut certainement entendre les opposants qui peuvent considérer qu'à 16 ans, on n'est pas mûr politiquement. Comment vous voyez cet argument?
Non, mais moi, je pense qu'à 16 ans, on peut être tout aussi mûr qu'à 45 ans. Et inversement, à 45 ans, on pourrait avoir la maturité politique de quelqu'un de 16 ans. Je pense que l'action de la culture politique, elle se construit à l'école. Et c'est justement pour ça qu'il faut donner le droit de vote à 16 ans. C'est à l'école que ça se construit, c'est à l'école que ça doit se construire. Et déjà, c'est pas le cas. On a toute l'action des enseignements civiques à l'école qui sont actuellement pas suffisamment mis en place. Nous, on pense que l'école, ça devrait être comme de la conduite accompagnée, finalement, pour avoir le permis. Nous, on pense que l'école, ça devrait être une conduite accompagnée pour ensuite devenir un citoyen. Et c'est en pratiquant la citoyenneté qu'on vote. Il y a des études qui montrent que plus on vote tôt, plus on est amené à voter régulièrement tout au long de sa vie.
Quels autres arguments peut-être sont opposés à ce droit de vote à 16 ans? Qu'est-ce que vous entendez souvent comme opposition alors?
Oui, que ça ne résoudrait pas le problème de l'abstention. Parce qu'un argument, qu'il y a tellement d'abstention dans la société que ça ne sert à rien de donner le droit de vote à 16 ans si déjà les gens à 45 ans ne votent pas. Mais nous, à l'UNL, on considère justement que donner le droit de vote à 16 ans, ça peut en partie résoudre le problème de l'abstention parce que ça obligerait l'école en fait à s'adapter à cette nouveauté. Ça obligerait à faire en sorte que les jeunes soient formés à cette citoyenneté parce qu'ils auraient ce droit à exercer. Et en fait, ça reconsidérerait toute la place de l'élève au sein du lycée parce que on serait plus seulement des élèves, on serait aussi des citoyens. Nous, on pense qu'avec cet accompagnement à la citoyenneté, les jeunes voteraient plus tôt, et vu que les gens voteraient plus tôt, ils voteraient plus régulièrement au cours de leur vie, comme les études le démontrent, donc l'abstention baisserait.
Vous vous appuyez aussi sur d'autres exemples dans d'autres pays?
Oui, totalement. Nous, on a un exemple phare qui nous montre bien que ça marche, c'est l'Écosse. L'Écosse, on donne le droit de vote à 16 ans juste avant l'élection sur l'indépendance, le référendum sur l'indépendance. Entre avant et après, première fois que les jeunes votent à 16 ans, la tranche d'âge 16-18 ans, elle vote à 80% aux élections. Elle vote à 80%, ça veut dire que les jeunes se sont massivement mobilisés le jour de ces élections-là quand on leur a donné le droit à 16 ans. Donc nous, on pense que si on donne le droit à 16 ans aux jeunes et qu'il y a un accompagnement qui est fait, les jeunes iront voter.
Ah, il y a beaucoup de gens, y compris des gens qu'on peut qualifier de politiquement mûrs, qui s'interrogent sur l'intérêt du vote. Le vote, ça sert encore à quelque chose?
Nous, on pense que le vote, c'est quand même une des rares façons qu'on a de s'exprimer, de faire entendre notre voix. C'est pas la seule façon de s'exprimer, évidemment, mais quand depuis 2 ans on se mobilise dans la rue, quand on bloque nos lycées en permanence, quand on est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre, là, déjà c'est fatigant, vraiment c'est fatigant sur le moral, c'est fatigant parce que on essaie de se faire entendre et on n'y arrive pas. Nous, on pense que le bulletin de vote, ça nous permettrait de faire entendre notre voix et d'avoir un moyen pour peser sur les décisions qui sont prises. En ce moment, chez les jeunes, il y a un phénomène qui s'appelle l'éco-anxiété. C'est le fait d'avoir une charge mentale, en fait, qui nous pèse lourdement face au réchauffement climatique, en fait, qui nous annonce un avenir assez compliqué. Et nous, on pense que le bulletin de vote, il nous permettrait justement de pallier à cette éco-anxiété parce que, ok, la planète, elle va s'écrouler, mais on a le pouvoir d'essayer de changer les choses. Ça suffit pas, évidemment. Nous, on pense qu'il faut continuer à se mobiliser. C'est pas parce qu'on a le droit de vote qu'on arrêtera de se mobiliser, mais en fait, ça doit venir en complément.
Alors, où en est cette initiative parlementaire? Comment ça se passe là? C'est à l'état d'études et ensuite, il y a un vote qui est prévu. Comment ça se passe?
Ouais. Bon, donc, dès là, j'invite tous et toutes à signer la pétition sur jevoteasaison.fr. Faut que ça tourne. Et le 8 octobre, il y aura une niche parlementaire pendant laquelle sera posée notamment la question du droit à 16 ans où ce sera débattu à l'Assemblée nationale. Nous, on pense que la pression, elle doit venir de l'extérieur sur l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que si les citoyens, les citoyennes, notamment les jeunes, se mobilisent pour ce droit, on peut l'obtenir.
Comment ça se présente, les pour et les contre? Ça respecte à peu près l'échiquier droite-gauche ou c'est un petit peu plus compliqué que ça?
Non, je pense que ça qui est intéressant. À gauche, globalement, on est pour. Mais à droite aussi, il y a des camps qui sont pour, il y a des personnes qui se disent pour le droit à 16 ans. Et même au sein de la majorité, c'est Macron, par exemple, Emmanuel Macron avait dit que si les jeunes allaient voter massivement aux élections européennes, ils pourraient réfléchir à donner le droit à 16 ans. Bon, il savait très bien que les jeunes n'iraient pas voter aux élections européennes parce que c'est des élections où il y a un fort taux d'abstention. Mais quand même, je pense que vraiment, c'est un débat qui est loin d'être tranché.
Mathieu Develaminck Arajois est président de l'UNL, Union Nationale Lycéenne. Un entretien réalisé la semaine dernière par téléphone.